chose pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit beau. Il suffit que Dieu pousse un bleu dans les cieux. C'est vrai, j'ai tant pleuré. Tu m'as parlé de ton amour, ce fut pour moi le plus beau jour. Je suis à toi, mais tout. Il faut si peu de choses en devenir un pays.
C'est un bel hommage à Raphaël Duval, l'homme de Dieu sans lequel nous ne serions pas là. Que Dieu soit béni. Amen.
Amen.
Bien, merci les musiciens. On va commencer maintenant. On va continuer notre culte en ouvrant la Sainte Bible. Je voudrais dire bonjour à Eric, à Mélodie, à Titi, qui ne sont pas avec nous ce matin. Je voudrais dire bonjour aussi à notre frère Samuel. Et aussi à Robert en Afrique, et à Liliane, et à Marc, et à tout le monde.
Vincent.
Vincent. Vincent. Il n'est pas parti en fusée, lui, non? Vincent. Il ne va pas tarder. Vincent, c'est vraiment un ami formidable, un frère formidable. Apocalypse 10, verset 8, s'il vous plaît. À 11. Ingénieur des ingénieurs dans l'aérospatial, quand même, c'est pas rien du tout. Et il vient écouter un pauvre bougre comme moi qui. Voilà, ben c'est les choses de Dieu, comme c'est comme ça avec le Seigneur. Apocalypse 10, 8, 11. Lui, par contre, il croit pas que la terre est plate. Hein. Là, il croit pas. Comme moi d'ailleurs. Encore une chose que je ne crois pas, c'est que, vous savez, Claude Nierski a dit que Jésus, l'enlèvement aurait lieu le 6 novembre. Alors, c'est faux, hein, je vous le dis maintenant déjà, c'est faux. Ceux qui ont peur, ou ceux qui sont angoissés, ou je ne sais quoi, ou même ceux qui se réjouissent de cela, c'est faux. Donc voilà, il viendra peut-être le 5, peut-être le 7, peut-être n'importe quand, mais pas le 6. Ah non, pas le 6, ça j'en suis sûr. Apocalypse 10, 8, 11. La voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et me dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » J'allais donc vers l'ange et lui demandais de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer dans ton ventre, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Dans ma bouche, il fut doux comme du miel, mais quand je l'ai avalé, mon ventre fut rempli d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Dieu bénisse sa parole. Vraiment qu'il bénisse sa parole et que nous puissions saisir les choses qu'il a à nous dire ce matin. Nous sommes tous des pèlerins, on chante vieux pèlerin, parce que nous sommes partis de notre maison céleste, là où nous étions avec notre Père, notre Dieu, et puis nous retournons au Père, notre Père céleste, le Père de Jésus-Christ, et là nous sommes en pèlerinage. Et nous sommes tous en train de chercher à atteindre un but inaccessible. Pourquoi inaccessible? Parce qu'il n'est pas de ce monde. Alors, chaque fois qu'on croit le... Ah, ben non, il y a encore autre chose. Et il n'est pas de ce monde. Et toute notre vie, nous sommes toujours en train de chercher à discerner entre la vérité et la réalité. Je vais vous parler de ça ce matin. Jésus, il est la vérité. Il remplit tout, partout, en tous, il remplit tout. Et nous, nous vivons ici, dans un cadre limité, qui semble bien réel, hein, c'est bien réel, ça, voilà, hein, on le voit, on entend, on le sent, on le goûte, hein, mais qui n'est pourtant pas la vérité, parce que nous ne percevons pas tout. C'est pourquoi, quand on est vraiment à la recherche de la sagesse, je ne dis pas quand on fait des recherches bibliques pour pouvoir prêcher avec de mauvaises intentions, comme l'apôtre Paul disait au sujet de ceux qui contestaient son ministère, non. Je dis que quand on cherche vraiment la sagesse, on commence par goûter l'amertume. Ça, c'est au début, c'est merveilleux, c'est formidable, mais hop, ça se transforme en amertume. La coupe que nous avons à boire, selon Matthieu 20, 22, 23, elle devient amère aussitôt que nous l'avons bu. Parce que cette coupe, qui est la coupe de la nouvelle alliance, c'est une alliance que nous avons faite avec Dieu. Et cette alliance, Dieu nous a avertis, ça ne va pas être rigolo tout le temps. Hein. Mais elle est douce, c'est sûr, mais il y a aussi une amertume. Une amertume. Comme au sujet du petit livre que Jean a été invité à manger. Nous mangeons ce livre, nous mangeons la parole rétablie de nos jours et c'est doux, c'est formidable quand on découvre, n'est-ce pas, la parole que Dieu est en train de rétablir dans son Église, mais ensuite ça devient quelque chose qui se transforme en amertume. Pourquoi cette amertume? Parce que la vie est sagesse. Et le mot sagesse vient du latin sapienta, qui signifie goûter. Je ne sais pas si vous saviez ça, ça signifie goûter. Or, à quoi avons-nous goûté? Aux prémices de l'Esprit, aux dons célestes, à la bonne parole de Dieu, aux puissances du monde à venir, aux choses sacrées d'en haut. Tout ça, c'est dans Hébreux chapitre 6, verset 4. Et le fait d'y avoir goûté fait de nous des cibles détestables pour tout ce qui est charnel et diabolique. Voilà pourquoi il y a de l'amertume. C'est parce que le charnel et le diabolique ont encore leur mot à dire, même si Jésus est mort à la croix pour nous. Il faut le comprendre, il faut admettre, c'est comme ça, et nous n'avons pas été trompés à ce sujet lorsque nous nous sommes approchés de Dieu. Nous ne nous sommes pas engagés en disant « Oui, nous nous engageons à suivre le Seigneur Jésus-Christ tous les jours de notre vie, dans l'Église, à être fidèles à l'Église et au ministère que Dieu a mis sur notre chemin, à condition que tout soit toujours bien tranquille, bien rose, bien gentil, bien doux. » C'était pas ça notre serment. C'était « quoi qu'il arrive, même au milieu des persécutions, même au milieu des incompréhensions, on suivra le Seigneur toujours, toujours, toujours dans son Église. » Et avec les serviteurs que Dieu a mis sur notre chemin. Je n'ai jamais abandonné un serviteur de Dieu que j'ai rencontré, qui m'a aidé, qui m'a béni. Jamais. Ça, je peux en témoigner devant Dieu. Mais avant que le monde des ténèbres ne se déchaîne, et que la chair des autres se déchaîne, c'est déjà premièrement la nôtre, notre chair à nous. Hein. Il faut d'abord y faire sa peau à celle-là. C'est notre propre mort que provoque le fait d'avoir goûté à la vie. La vie, c'est Jésus. Nous ne pouvons pas boire la coupe de la Nouvelle Alliance et continuer à vivre la vie des mortels, des moldus. On ne peut pas. C'est deux mondes complètement différents. Alors, nous mourons à nous-mêmes et nous sautons dans l'inconnu. Je dis bien, nous sautons dans l'inconnu. Nous sommes toujours en train de sauter dans l'inconnu, renonçant à notre propre vie, renonçant à notre propre volonté. Après nous être repentis, après avoir passé par les eaux du baptême, nous pouvons boire la coupe et c'est le départ vers une vie nouvelle. C'est une vie nouvelle d'un homme nouveau, d'une femme nouvelle, sans référence. Sans référence. Parce que, mes frères et sœurs, tant que nous gardons nos précieuses références du monde réel, eh bien, c'est que nous n'avons pas encore sauté. Nous n'avons pas encore fait le pas vraiment de nous abandonner à Jésus-Christ. On est encore en train de s'accrocher à des valeurs qui finalement ne sont que des boulets et des chaînes qui nous empêchent d'avancer sur le chemin, qui nous empêchent de devenir ce que Dieu veut que nous devenions, ça nous ralentit. Alors oui, on a pratiqué des rites, on a été plongé dans l'eau, mais oui, on a pris la Sainte-Seine, et oui, et toutes ces sortes de choses. Mais ce n'était que des rites. Ce n'était que des rites. Ça paraissait réel, mais ce n'était pas la vérité. Vous voyez? Ce qui rend impuissants les actes sacrés que Jésus nous a donné de faire, ce sont nos traditions. Marc chapitre 7, verset 9. Mais pas seulement nos traditions religieuses, mais aussi nos habitudes. Notre façon de penser, notre façon de réfléchir. Je me rappelle d'un frère qui venait au début de sa vie communautaire, il est parti depuis, mais au début de sa vie communautaire, il venait dans mon bureau tous les jours et puis il me disait « Mais Michel, mais c'est impossible qu'il n'arrive pas ça, vu qu'il y a eu ça, c'est pas possible qu'il n'arrive pas ça. » Je dis « Non, c'est faux, tu penses d'une façon fausse, avec les rudiments du monde, avec les raisonnements du monde, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. » Et je passais pour un charnel. Voilà le résultat. Mais quand on est saisi par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la vie, alors nous franchissons des montagnes, alors nous marchons sur l'eau, nous calmons des tempêtes, nous guérissons des malades, nous neutralisons les ennemis, nous ressuscitons des morts, et comme Jésus, même quand un mur semble bien solide, ben on passe à travers. Vous voyez ? La vie avec Jésus, c'est autre chose, c'est une autre dimension. Josué, chapitre 4, verset 4-7, je vais vous lire ça. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les Israélites, un de chaque tribu, et il leur dit « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus israélites, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour que signifient pour vous ces pierres, vous leur direz l'eau du Jourdain a été coupée devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle a passé le Jourdain, l'eau du Jourdain a été coupée et ces pierres seront pour toujours un souvenir pour les Israélites. » Ces pierres devaient être balèzes parce qu'il fallait que les enfants puissent les voir, donc elles devaient sortir de l'eau, elles devaient dépasser le... Puis le Jourdain, à l'époque, c'était pas le Jourdain d'aujourd'hui. Avec Michou, on est allé en Israël avec nos amis à Laman. Eh bien, le Jourdain, maintenant, c'est le forestier de chèvres, quoi. C'est presque rien du tout. Même, je crois que le forestier, il y a plus d'eau. Que ceux qui connaissent pas le forestier, vous êtes bien malheureux. Et ceux qui connaissent pas le Jourdain aussi. Mais là, c'était quand même un fleuve terrible. Et puis alors, ces pierres devaient être assez grosses. Vous voyez, quand le peuple de Dieu a passé le Jourdain, pour rentrer dans cette terre promise, 12 hommes ont dû porter chacun une pierre sur son épaule. Pourquoi pas comme ça? Pourquoi pas une brouette? Pourquoi sur son épaule? Alors, les enfants d'Israël devaient pouvoir les voir, donc elles étaient grosses. Est-ce que c'était bien pratique de les porter sur les épaules? Pourquoi? Il nous a dit qu'ils ont fait cet acte de foi en portant une grosse pierre sur leurs épaules. Eh bien, c'est parce que Dieu, avec Dieu, il n'y a rien qui est laissé au hasard. L'épaule. Vous savez comment se nomme le principal os de l'épaule ? Oui, bravo, notre ami culturiste connaît bien le corps humain. La clavicule. Et ça, tu sais ce que signifie clavicule? Alors là, si tu le sais, c'est génial. Moi, je ne le savais pas il y a encore quelques jours. Ça signifie, non, pas clavier, ça n'a rien à voir. Ça signifie petite clé. Petite clé. Ce geste signifiait que le peuple n'était pas entré en possession comme des voleurs ou comme des suiveurs inconscients d'un gourou, Moïse en l'occurrence. Voilà. Non. Ils étaient entrés avec les clés. Ils étaient possesseurs des clés. Les 12 pierres étaient lourdes sur leurs épaules, mais aucun ne s'est plaint parce que c'était la joie de la fin du désert. Ça faisait peut-être mal, mais ils savaient que sous la pierre, il y avait la clé, en quelque sorte. C'était la sortie, c'était la fin d'un temps, c'était quelque chose de nouveau qui s'ouvrait. Même si c'est amer, à cause des 40 ans passés dans le désert, ça ne doit pas altérer notre joie. Allez, je remercie les frères qui ont débuté ce culte en nous faisant chanter ça. Ne laisse pas ta joie s'altérer. Nous ne devons pas laisser notre joie s'altérer. Nous portons une pierre, c'est vrai, elle est lourde, d'accord, mais dessous, il y a la clé secrète. La clé de l'entrée dans notre vraie vie, et non plus cette vie que nous sommes en train de mener, que nous aimons bien. Du bien, alors, c'est super, mais quand même, c'est pas tout à fait exactement ce que nous aimons vivre. Nous, ce que nous aimons vivre, c'est vivre la parole de Dieu, c'est-à-dire vivre en communauté. Pas simplement vivre en famille, mais vivre en communauté, les uns avec les autres. Donc, voilà, nous avons cette clé, juste là, sous la pierre que nous sommes en train de porter. Nous savons que Dieu sait pourquoi. Et c'est bon de savoir que Dieu sait pourquoi. Et parfois, il nous fait porter un joug. C'est aussi sur les épaules qu'on porte le joug, avez-vous remarqué? Sur notre clavicule, sur la petite clé, on porte un joug, mais l'Éternel ôtera le fardeau de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, c'est même son joug, c'est lui qui l'a mis, de dessus ton cou, et la graisse, c'est-à-dire l'huile, fera éclater le joug, libérant quoi? La clé. Ésaïe 10, 27, je crois, 27. J'écris tellement mal quand j'écris. C'est le joug qui va éclater, c'est pas ton épaule. N'aie pas peur pour ton épaule, n'aie pas peur pour ton corps, n'aie pas peur pour... Non! Et c'est ton joug qui va éclater. Pas la clé en tout cas. Si tu vis l'épreuve des pierres sur tes épaules, si tu vis l'épreuve des fardeaux sur tes épaules, et j'en connais qui en vivent des terribles, des jougs véritablement terribles, souviens-toi qu'il y a une clé secrète juste en dessous. Juste en dessous. Cette clé, elle ouvrira pour toi toutes les portes. Absolument toutes les portes. Et les portes s'ouvriront pour toi, laissant le vent sacré, le souffle de Dieu, le souffle du Verbe venir sur ta vie. Et tu oublieras ton fardeau. Tu oublieras cette pierre, tu oublieras ce joug, tu oublieras cette amertume, comme une femme qui accouche, qui souffre, mais qui après se réjouit parce qu'elle a son bébé. Tu ne t'en souviendras plus pour toute l'éternité. Quand quelqu'un viendra te rappeler ta souffrance, tu diras « Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié. » Mais je te promets, mon frère, ma soeur, le jour viendra où tu diras « Ah ouais, c'est vrai. » Je ne sais plus exactement comment c'était. C'était quoi déjà souffrir? Ça va venir. Ça va venir. Et tu seras, parce que tu seras revêtu de gloire. Car à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Jean 1, 12, 13. Et nous sommes nés de la volonté de Dieu et nous avons cette petite clé secrète cachée sous le fardeau que Dieu nous impose pour le moment. Lorsque nous avons compris ces choses, alors seulement nous pouvons les vivre tranquilles. Là, ces hommes n'ont pas respecté, hein. Ils n'ont pas respecté. Je pense que Dieu aussi, dans sa sagesse, et Moïse aussi, ils n'ont pas pris les plus malingres du peuple, ils ont pris les plus balèzes. Et les plus balèzes, c'est vous, c'est pas tonton mayonnaise. C'est vous les plus balèzes, c'est vous les plus forts, c'est vous. Et en vivant les choses, notre regard commence à s'ouvrir et nous voyons la réalité de ce monde sous l'aspect de la vérité et non pas simplement sous l'aspect brut des réalités. Oui, mais quand même, très souvent quand je prie pour les malades, je vois les horribles maladies que ces gens ont et je me dis, oh, comment ça peut... Je me rappelle, j'étais avec Olivier et Lucas, on était dans une ville au Burkina Faso, et on nous a amené un petit garçon qui avait un pied énorme, mais énorme, gros, 3-4 fois plus gros que normal. Et quand j'ai regardé ça, c'est une réalité. Je me dis, comment c'est... Waouh, bon, ben, mon boulot, c'est de prier. Notre travail, notre mandat, c'est de prier. Nous avons prié pour lui. Et là, il y a quelques semaines, le frère m'a téléphoné me disant mais l'enfant a été complètement guéri, j'ai oublié de te dire, mais il n'a plus rien du tout, son pied est redevenu normal. Vous voyez, quand on a foi dans ce que le Seigneur dit, eh bien même ce qui nous paraît une réalité épouvantable, eh bien on la voit avec des autres yeux, un autre regard, notre regard s'ouvre, et alors on fait l'acte de foi, et alors les choses se produisent. Premier sens ouvert, la vue spirituelle. Voir spirituellement. J'aurais pas prié pour cet enfant si j'avais pas vu par la foi, vu que c'était justement de cette sorte de personne dont Jésus parle quand il dit « Allez et priez pour les malades ». C'était pas pour simplement ceux qui ont un rhume. Et puis ensuite, notre entendement à l'intelligence du cœur nous parvient et nous permet d'entendre la parole de Dieu. Parce que c'est différent d'avoir une compréhension de la lettre qui tue ou d'entendre la parole de Dieu. Ça, c'est très différent. Notre sens, deuxième sens, est ouvert, l'ouïe, avec cette clé. Et puis, nous sentons l'odeur de sainteté, l'odeur même de Dieu, l'odeur de la vie parmi les sauvés. Vous savez bien, cette même odeur de vie parmi les sauvés, cette même odeur, c'est une odeur de mort parmi ceux qui périssent. Nous trouvons ça dans 2 Corinthiens 2, 15, 16. Alors que nous sentons l'odeur de la sainteté, de l'odeur de Dieu parmi nous, ceux qui périssent nous trouvent diaboliques, c'est quand même, et dangereux, et sectaires, et que sais-je. Notre troisième sens est ouvert, l'odorat sacré. Et puis, nous goûtons la saveur de notre vie nouvelle. Nous y trouvons un goût. Nous la trouvons, moi je l'aime bien pimentée. Hein, j'aime pas quand c'est fallace. Elle est bien pimentée. Notre quatrième sens spirituel est ouvert, le goût. Le goût de la vie, le goût des choses, le goût de ce que Dieu a créé, le goût des choses à venir, du monde à venir. Nous arrivons à le percevoir. Or, comme pour ce qui est de notre vie terrestre, dans notre corps mortel, ces quatre sens dont je viens de vous parler sont des sens qui sont tous dans la tête. L'ouïe, les yeux, l'odorat, le goût, c'est dans la tête. Et au spirituel, notre tête, c'est Jésus-Christ. C'est le Christ. Nous percevons donc, étant dans son corps sur la terre, comme il perçoit en vérité et non comme les choses nous apparaissent si nous regardons simplement avec nos, ou entendons avec nos sens humains terrestres limités. Vous suivez ce que je vous dis ? Et puis il y a un cinquième sens. La dernière clé, la dernière clavicule, elle ouvre notre sens du toucher. Et nous devenons comme Thomas qui a pu toucher Jésus après avoir douté très sincèrement. Nous pouvons commencer à toucher les choses de Dieu. Notre cinquième sens spirituel est ouvert. Sens qui concerne notre corps et en particulier nos mains, c'est-à-dire nos actions. Tout ce que nous touchons est béni. Tout ce que nous entreprenons est béni. Amen. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est aussi pourquoi Jésus dit « Mettez vos mains sur les malades, les mains, le toucher. » Cinquième sens, voilà, il est ouvert avec la cinquième clé, la clavicule. Et c'est ainsi que nous devenons l'image de Christ qui lui-même était l'image du Père. Il faut que nous arrivions à ce stade-là. Sinon, ben, nous sommes des blablateurs, simplement, des gens qui parlent, c'est tout. En fait, notre baptême, c'est le serment que nous faisons à Dieu et que nous faisons à son Église. Et le mot « serment », ça vient du latin « sacramentum » qui signifie « ce qui est lié au sacré ». Nous nous lions au sacré, nous nous sommes liés au sacré lorsque nous nous sommes convertis. Comment aurais-je pu abandonner Raphaël et Violette alors que c'est au travers d'eux que j'ai pu être lié au sacré? Mais c'est impensable! Même si je voyais bien que Raphaël avait des trucs qui n'étaient pas saints, parfaits, comme lui voyait que moi aussi j'ai des trucs qui ne sont pas saints, parfaits, tout. Mais jamais j'aurais abandonné cet homme-là. Jamais. Et jusqu'au bout, on était les trouver, on était allé les visiter. Tous les 10, 15 jours, on était là-bas, on faisait combien de kilomètres pour aller les voir. On était fidèles. Et tout ce qu'il nous a dit de faire, on l'a fait. Après, il est parti. Et maintenant, je suis un peu orphelin, et nous sommes un peu orphelins, parce que Michou s'est converti aussi avec lui, Rachel s'est aussi convertie avec lui. Comment est-ce qu'on peut oublier des gens comme ça? Comment on pourrait mépriser des gens comme ça? Comment on pourrait? Camélia, à la fin de sa vie, avec la maladie d'Alzheimer, elle était très abîmée, mais c'était une sainte femme de Dieu, même si à la fin de sa vie, elle était dérangée. Mais c'était une maladie. Voilà. Certains chez les gitans, d'abrutis de première, les pauvres, ils n'ont jamais été à l'école, ce n'est pas leur faute. Mais même quand vous leur expliquez, ils ne comprennent pas ou ils ne veulent pas comprendre, ils disaient qu'elle était possédée. C'est la folie. Dire qu'une femme comme ça est une possédée, il faut être possédé pour dire ça. Non, peut-être pas, j'exagère. il faut être. Paul n'employait pas les mots au hasard. Il cherchait à se faire comprendre par ceux à qui il écrivait. Je voudrais vous lire un texte dans 2 Timothée 1. Dans 2 Timothée 1. Tiens, je croyais que j'avais noté dans la Bible. 2 Timothée 1. Et verset 12-13. Non, je ne sais pas ça. Non, je suis dans 1 Timothée. 2 Timothée, 1. 12-13. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. Prends pour modèle les saintes paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. Il écrivait ça à Timothée. Maintenant, on ne sait plus trop bien, on donne des explications, mais... Qu'est-ce que c'est ce dépôt? Dans le paganisme d'autrefois, le mot dépôt signifiait, c'était le serment que les gens faisaient à leur divinité. Et ils pensaient que le serment qu'ils avaient fait, leur Dieu le prenait comme un dépôt devant lui, comme une garantie de la bonne foi de celui qui avait fait ce dépôt, ce serment. Donc quand il dit « garde le bon dépôt qui t'a été confié », il renverse les choses disant que maintenant c'est Dieu qui s'est engagé vis-à-vis de nous et qui a mis un dépôt en nous. Mais maintenant, bien sûr, nous n'avons plus la même culture, donc on peut tordre ce texte. Non, il faut comprendre que Paul écrivait à des gens qui avaient une culture, qui connaissaient des choses que nous ne connaissons plus, enfin, ou que nous ne voulons pas connaître, parce que moi si j'ai réussi à le connaître, c'est parce que j'ai lu, parce que j'ai cherché à comprendre. Aujourd'hui, depuis Jésus, c'est Dieu qui a fait serment de nous être fidèles et l'alliance qu'il a faite avec nous l'engage
Et si nous faisons le serment de le suivre, alors ça nous engage aussi. Nous sommes engagés tous les deux. Dieu a fait sa part, qui nous est donnée, les souffrances de Christ, et nous, nous avons à faire notre part, qui lui revient et qu'il garde nos souffrances. Nous nous sommes engagés dans les eaux du baptême à lui être fidèles ainsi qu'à son Église et donc au ministère qu'il a placé sur notre chemin. Et cela, les Corinthiens, l'apôtre Paul, ça transpire dans toutes ses lettres. L'apôtre Paul était vraiment attristé par ce fait parce que les Corinthiens en particulier ne voulaient pas entendre parler de ça. Ils voulaient bien être fidèles à Dieu, mais ils contestaient sans cesse le ministère de Paul qui les avait conduits à Dieu. Il y a un nouveau sous le soleil. Notre serment, il est original, parce qu'il s'agit d'une restriction volontaire de liberté devant une autorité dont nous avons tous, absolument tous, admis le pouvoir de reconnaître un manquement à cette renonciation de liberté et de la punir. Nous avons reconnu à Dieu et nous avons donné à Dieu l'autorité et le pouvoir de nous punir si nous trahissons le commandement, le serment. Parce que Dieu est notre supérieur. Il est l'auteur de l'alliance, il s'est mis en égalité avec nous en disant « Je m'engage, vous vous engagez, mais maintenant, est-ce qu'on peut punir Dieu ?» Non. Par contre, lui, nous reconnaissons tous et nous avons tous reconnu lors de notre engagement que Dieu pouvait, si nous manquions à notre engagement, nous punir. Le serment que nous avons fait dans les eaux du baptême est obligatoirement sanctionné par l'autorité divine qui est l'autorité supérieure. Le respect du serment que nous avons fait est avant tout une affaire de conscience. De conscience, une affaire entre nous et ce que nous avons de plus sacré. Qu'est-ce que nous avons de plus sacré ? Dieu et l'Église. Bien sûr, dans l'Église, la famille, puisque nous savons que si tu crois, ta famille aussi est sauvée. Mais ça, c'est une autre prédication. Alors, mes frères et sœurs, portez votre croix sur votre épaule. Vous comprenez mieux la chose maintenant ? Portez votre pierre témoin sur votre épaule. Ça fait souffrir, mais en dessous, il y a la clé secrète, la clavicule. En dessous, il y a la clé secrète, en dessous de votre souffrance, au-dessous du fait que vous portiez votre croix. Vous devez porter votre croix. Si vous ne portez pas votre croix, vous n'êtes pas digne. On se demande, mais pourquoi ? Ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. On s'est engagé sans référence. Sachant quand même, l'évangéliste l'avait bien dit, ça ne va pas être facile. Portez votre croix, portez votre pierre, portez votre joug, portez vos souffrances, car la grâce de Dieu vous suffit. La grâce de Dieu me suffit. C'est ce que je dois croire. C'est ce que je dois croire sans voir avec mes yeux. Mais je peux le voir avec mon œil qui est loin. Mon œil qui était ouvert avec la clé. Vous comprenez ? Ce n'est pas de moi cette phrase, ma grâce te suffit, c'est de Jésus. La clé, elle est juste en dessous, elle vous ouvrira toutes les portes. Il ne faut pas en douter. Il ne faut pas en douter. Ne reniez pas votre serment. Au contraire, renouvelez-le par l'ordonnance de la Sainte Cène. Pourquoi est-ce qu'on prend la Sainte Cène ? C'est le renouvellement de notre alliance. Recevez la vie jour après jour. C'est pourquoi dans la communauté, moi j'avais dit, quand j'étais jeune pasteur, j'avais dit, oh je ne veux pas faire comme dans les églises. Dans les églises, ils prennent la Sainte Cène une fois par semaine, mais je vois plein de gens qui vont là, on dirait qu'ils vont prendre leur dose, et puis que s'ils n'ont pas eu leur dose, ils ne sont pas contents et tout, et je trouve ça charnel. Et donc nous on fera la Sainte Cène une fois par mois, et même on la fera, bah, quand ça nous prend. J'ai vécu comme ça pendant des années et Dieu m'a parlé, Dieu m'a fait comprendre. Et maintenant, c'est pourquoi dans notre communauté, nous la prenons à table tous les soirs. Parce qu'on se nourrit tous les jours. Et la Bible nous dit que sa chair, c'est vraiment une nourriture. Et que son sang, c'est vraiment un breuvage. Et que ceux qui mangent et qui boivent, ils ont la vie. Et moi, j'ai besoin d'avoir la vie. Pas vous ?
Oui.
Si vous n'avez pas besoin, c'est bien.
Si vous pouvez vivre avec un morceau de pain par semaine. Bien.
Recevez la vie jour après jour, car sa chair est une vraie nourriture et son sang est un vrai breuvage de vie. Gardez vos sens bien renouvelés par le Saint-Esprit. Gardez-les, soignez-les, soyez attentifs à tout ça. Ne vous laissez pas impressionner par ce que vous pensez être des réalités. Vivez selon la vérité et selon la réalité terrestre qui est la vôtre. Vivez selon la vérité et non selon la réalité de ce que vos sens terrestres, humains, mortels vous prouvent. Ça c'est terrible. Tenez fermement à ces choses sacrées. Tenez fermement à ces choses sacrées. Je vous rappelle ce film dont je vous ai parlé, et je vais terminer avec ça. Le pardon, c'est le chemin du pardon, vous trouvez ça dans n'importe quel magasin où ils vendent des DVD. C'est un film magnifique. À un moment donné, on voit un homme qui est dans une barque, qui est en train de couler, et puis Jésus vient à sa rencontre en marchant sur l'eau, et il lui dit « Viens !» Et l'autre lui dit « Mais comment, mais c'est pas possible !» Finalement, il met le pas, et Jésus lui dit « Regarde pas, regarde-moi !» Alors il regarde Jésus et il commence à marcher sur l'eau. Puis ils vont jusqu'au rivage, ils font ce qu'ils ont à faire, je vous raconte pas tout le film, et puis ils doivent retourner sur la barque qui est restée loin sur le lac. Et l'homme qui est avec Jésus, il dit « Bon, bah alors allons-y !» Puis il commence à marcher, mais il marche pas sur l'eau, il marche dans l'eau. Alors il se retourne, il dit « Eh, ça marche plus !» Il lui dit « Eh oui, bah, si tu marches avec moi, c'est plus facile. » Et Jésus va avec lui et il marche de nouveau, tous les deux sur l'eau. Vous voyez, marcher avec Jésus, c'est quand même plus facile que de vouloir se débrouiller par soi, tout seul. Amen. Donc, ça, c'est juste un petit passage du film, mais c'est juste pour vous donner envie. Regardez ce film, il est très très beau. C'est quelque chose qui va vous fortifier, qui va vous aider, parce que c'est quelque chose de... Bon, il s'appelle « Le chemin du pardon ». Voilà. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse ce que je vous ai dit ce matin, qu'il vous aide et que vous puissiez aller de l'avant avec vos sens renouvelés par le Saint-Esprit. N'oubliez pas, ne demandez pas sans arrêt à Dieu de vous enlever la pierre que vous avez sur l'épaule, mais souvenez-vous que vous avez un secret avec lui, il y a la clavicule dessous. Vous vous rappelez ce que c'est la clavicule? C'est la petite clé. Jésus, je te prie de bénir mes frères et sœurs et de les aider jour après jour. Dans leurs souffrances, comme tu m'aides dans mes souffrances, tu les aides aussi. Et merci pour la délivrance qui approche. Je la confesse au nom de Jésus, mon Dieu. Amen. 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 Au revoir.